franceinter.fr.
Les médecins français qui déclarent mentir très facilement à leurs patients, c'est ce qui ressort d'un questionnaire sur les médecins et l'éthique. C'est à la une de la science aujourd'hui et c'est un fait qui intéressait déjà Karen Cheryl en 1980. Il fallait le trouver celui-là, hein, Dominique
Dupal. J'en trouve une sur les journalistes pour la prochaine fois. Voilà.
On remercie Céline Hila qui nous a dégoté ce titre d'anthologie pour parler donc de ce sondage réalisé par le site spécialisé Medscape et donc qui indique que 43% des médecins de l'Hexagone seraient prêts à minimiser les risques d'un traitement ou d'une intervention pour favoriser l'adhésion de leurs patients, contre 10% seulement aux États-Unis. Pour comprendre pourquoi, on accueille par téléphone le psychiatre Patrick Lemoine. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de l'effet placebo. Et puis donc Dominique Dupal, notre docteur menteur à nous. Patrick Lemoine, plus du tiers des médecins français seraient donc des menteurs. C'est un chiffre qui vous étonne, qui vous choque. Comment vous l'interprétez exactement ?
Nous sommes dans une culture latine où le mensonge est beaucoup moins sévèrement condamné que dans les cultures protestantes anglo-saxonnes. Donc ça ne m'étonne pas, mais ça me navre.
Et ça vous étonne cette proportion quand même ?
Non, ça m'étonne pas vraiment puisque je suis amené à rencontrer beaucoup de médecins et que je fais beaucoup de supervision et je réalise que très souvent le médecin ment dans deux cas, soit qu'il n'ose pas dire la vérité, soit qu'il bluffe parce qu'il n'ose pas dire qu'il ne sait pas. Mais c'est toujours dans un cas de ne pas oser que le médecin ment, mais je tiens à le dire tout de suite, il a toujours tort.
Dominique Dupagne, docteur Dupagne, êtes-vous un menteur ?
Il y a une règle générale qui est de dire il ne faut pas mentir aux patients, il n'y a pas de doute là-dessus, comme on dit il ne faut pas mentir aux enfants. Après, c'est sur le toujours que c'est difficile. Moi, ce qui me surprend dans ce sondage, c'est qu'on dit est-ce que ça vous arrive de mentir ? Oui, non, et ça dépend. Moi, je m'attendais à ce que 90% des médecins répondent ça dépend. Bien sûr, dans l'ensemble, on ne ment pas. Mais moi, je pourrais vous citer 10 circonstances dans lesquelles j'ai menti, où je pense que beaucoup de gens seraient d'accord avec
Alors,
le fait que j'ai menti.
Bah, donnez-nous un exemple, par exemple. Lesquels ?
Un exemple, une jeune femme de 30 ans arrive, elle a eu une paralysie du bras pendant une journée, on lui a fait un scanner, on n'a rien trouvé, elle me dit est-ce que ça peut être grave ? Moi je sais que ça peut être le premier signe d'une sclérose en plaques qui va se remanifester un an ou deux plus tard, mais que ça a toutes les chances de ne pas être le cas, ça peut être une migraine. Mm-hmm. Je ne vais jamais lui dire écoutez c'est peut-être une sclérose en plaques, on verra bien. Je vais mentir en parlant pas de cette possibilité parce que j'ai pas envie de pourrir la vie de tous les gens qui n'auront jamais sclérose en plaques de leur vie. Mm-hmm. Donc ça c'est un mensonge, c'est quelque chose
c'est que une précaution que vous prenez.
Disons que je ne veux pas créer une inquiétude injustifiée, sachant qu'en plus, il n'y a pas de traitement préventif, qu'on ne peut rien faire. Mm-hmm. Donc là, par exemple, j'ai menti. Bon, donc, ce n'est pas 40% des médecins qui mentent dans 40% des cas. C'est est-ce que parfois, dans certaines circonstances, il vous arrive de mentir ? Moi, je réponds toujours, c'est difficile de dire toujours non ou toujours oui.
Patrick Lemoine ?
Selon moi, ça n'est pas un mensonge, justement, parce qu'il eût été mensonger de dire vous avez telle chose, vous avez telle chose, vous avez peut-être telle chose. Et effectivement, on dit la vérité lorsque la vérité est certaine. Lorsque je suis sûr qu'il y a une sclérose en plaques ou lorsque
oui,
je suis sûr qu'il y a
une
migraine.
Dans votre exemple, Dominique, il y a un doute.
À mon avis, ce n'est pas un mensonge. Mmh. Dans mon esprit, en tout cas, ce n'est pas du tout un mensonge.
Alors, c'est la définition du mensonge qui, en effet, est
effectivement
délicat.
Effectivement.
Axel. Hein.
Dominique Dupagne, que dit le code de déontologie des médecins vis-à-vis du mensonge ?
On a un problème parce qu'il y avait un article pousse au crime, un peu, qui disait qu'un diagnostic fatal devait être révélé que avec la plus grande circonspection, et donc il y avait une incitation pour le médecin à ne pas révéler des diagnostics graves à son patient pendant longtemps. L'interprétation change un peu. Le sida a tout changé, puisque quand le sida est arrivé, on a dit la vérité aux gens, et on a vu qu'il n'y avait pas de drame, et qu'au contraire, les gens se mobilisaient mieux quand ils savaient. Donc ça a rendu un peu obsolète cette espèce de tradition latine et française de cacher la vérité au patient pour ne pas l'inquiéter, ce qui était une mauvaise idée, bien sûr.
Patrick Lemoine, donc il y a un mensonge dont l'intérêt est démontré, dont on a déjà parlé d'ailleurs avec vous dans cette émission, c'est le placebo. Prescrire un placebo, est-ce que c'est mentir ?
Alors ça dépend. Ça dépend de la formulation. On peut prescrire un placebo sans mentir. Si vous le permettez, juste pour illustrer mon propos, je vous raconte l'histoire du docteur Wolf, ce grand interniste américain, très connu de son temps, qui voulait toujours démontrer ce qu'il faisait, qui était un homme très honnête. Il avait un patient asthmatique depuis 18 ans qui était en danger de mort parce qu'il faisait des crises d'asthme extrêmement fréquentes, qui n'avait pas de traitement à l'époque. On est dans les années 60. Il voit qu'il y a un nouveau produit pas commercialisé, il le commande, il le prescrit, guéri. le patient est guéri. Du coup, au bout d'une ou deux semaines, le patient, le médecin, inquiet en disant c'est peut-être un effet placebo que j'ai déclenché par mes croyances, commande la même chose mais sous forme de placebo, qu'il donne, le patient rechute. Il redonne le produit actif, reguérit. Il redonne le placebo, rechute, et enfin il rentre dans le produit actif et le patient est définitivement guéri. Il écrit au labo en lui disant, je crois que raisonnablement, votre produit est efficace chez mon patient, et le labo lui répond, depuis le début, vous n'avez que du placebo. Donc qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Ça veut dire que, je ne parlerai pas de l'aspect moral après tout, si les pieux mensonges ça pourrait exister, mais je parlerai simplement de l'aspect technique. Un médecin, c'est pas un professionnel du mensonge, c'est pas un comédien, c'est pas un homme politique, il n'a pas appris. Du coup, on peut considérer que le docteur Wolf, quand il croyait dire la vérité, que c'était le produit qu'il pensait actif, il avait un air réjoui, et que quand il pensait mentir, il devait être un petit peu plus sombre, et que le patient inconsciemment captait ça, et du coup, une fois sur deux, il disait, là c'est du bon, c'est du lourd, je vais guérir, tout ça inconsciemment, et puis quand il pensait que le médecin mentait, eh bien, il rechutait. Donc la conclusion de l'histoire, c'est comment demander la confiance à des gens à qui on ment comme un arracheur de dents.
Dominique Dupin, la persuasion du médecin peut rentrer dans la guérison du patient. Alors, c'est incroyable.
Et à propos de l'histoire du docteur Wolf, ça répond aussi aux gens qui disent à propos de telle ou telle technique contestée, ça ne peut pas être un placebo puisque ça marche chez l'animal. Et la démonstration est absolument la même. Bien évidemment, il y a une façon de donner. Si vous donnez un fortifiant, comme on dit à quelqu'un, en lui disant, écoutez, prenez ça, des fois ça marche, j'ai des patients qui en sont contents, vous verrez bien, vous n'aurez pas le même effet que si vous dites, prenez ça, mais surtout pas plus de 2 ampoules par jour, parce qu'après je ne réponds rien. Évidemment, vous n'aurez pas le même effet placebo dans les deux cas, c'est clair.
Excellent. En plus, on sait que l'animal répond au placebo, du moins l'animal domestique, pas l'animal sauvage, de même que le nourrisson et de même que le sujet sain. Mais on peut prescrire le placebo sans mentir.
Est-ce que ça veut dire, Patrick Lemoine, qu'il faut accepter que le mensonge soit une des cartes en main du médecin?
Non, en aucun cas. On peut prescrire un placebo sans mentir, on peut toujours dire la vérité, après on doit donner à chacun la vérité qu'il peut entendre. C'est sûr qu'on ne va pas désespérer quelqu'un dont on sait que si on lui apprend qu'il a un Alzheimer, que c'est incurable et dont on pense qu'il est déjà un peu déprimé, qu'il va sauter par la fenêtre, c'est sûr qu'on ne va pas dire les choses comme ça. Mais à terme, on doit toujours la vérité au patient, c'est pour ça, j'ose dire qu'il nous paye.
Dominique Dupin, vous prescrivez des médicaments dont vous connaissez pertinemment l'inefficacité?
Je précise ce qu'on appelle des placebos impurs. Pas souvent d'ailleurs. Un placebo impur, c'est pas du tout un mauvais médicament. C'est un produit dont l'efficacité est extrêmement douteuse, un extrait d'écorce de ceci, un oligo-élément de cela, et qu'on prescrit alors qu'il est indiqué, par exemple, je sais pas, moi, dans l'anxiété, en pensant qu'il a probablement pas d'efficacité intrinsèque, mais on le prescrit pour ce qu'il est, en se disant si ça n'a pas d'efficacité intrinsèque, ça aura un effet placebo. On appelle ça des placebos impurs. Mmh. Ça m'arrive quand je suis soumis à une très forte pression d'un patient, pas souvent, parce que j'aime pas, je trouve qu'il y a tromperie. C'est pas un mensonge peut-être, mais quand vous donnez un médicament à quelqu'un dont vous doutez fortement des capacités du médicament, et que vous le présentez comme salvateur, il y a un mensonge quand même. Mmh. Et j'ai un peu de mal à comprendre, placebo sans mensonge, il y a quand même un petit mensonge derrière, monsieur Lemoine, non?
Expliquer les choses, justement.
Très vite, parce qu'on termine.
Oui, très très vite. Un placebo impur, on parle du magnésium, on parle de l'homéopathie, tous ces produits qui n'ont jamais démontré d'efficacité, mais qui peuvent être très efficaces. Tout dépend de la formulation. Si je vous dis, je vais vous donner un magnésium pour votre anxiété, il est suractif, il est américain, surtout dépassé par la dose, je mens. Je n'ai pas le droit. Si je dis, je vous prescris du magnésium parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Qu'est-ce que je déplace le problème? Ce qu'il y a de mieux pour vous, ça veut dire que le rapport bénéfice-risque est supérieur, il est en faveur du magnésium par rapport au tranquillisant. Pourquoi? Parce qu'un tranquillisant, au bout de 2 ou 3 semaines, de toute façon, il perd son effet, et que le tranquillisant, il a des effets secondaires de type fracture du col du fémur, apnée du sommeil, et j'en passe, et endormissement au volant. À partir du moment où un produit est, au bout de 2 ou 3 semaines, aussi efficace, et qu'il a moins d'effets secondaires, le rapport bénéfice-risque est en faveur du magnésium. Donc quand je dis ce produit est ce qu'il y a de mieux pour vous, je ne mens pas. Et quand j'ai publié mon livre et que les patients avaient lu mon livre, la plupart, parce qu'à l'époque on en avait beaucoup parlé, et que je leur prescrivais du magnésium, et ils me disaient « mais c'est un placebo impur », je leur disais « oui, ça n'empêchait pas qu'il marche aussi bien ».
Voilà, en tout cas, ces médecins français qui déclarent facilement mentir à leurs patients, dans une proportion assez importante, plus d'un tiers, Axel, puisque c'est l'objet de ce questionnaire. Patrick Lemoine, un livre, un de vos derniers ouvrages, justement, sur le placebo, on en est parlé, mais c'est un petit peu ancien.
Mon dernier, mais je parle aussi du placebo, c'est « Soigner sa tête sans médicaments ou presque » chez Robert Laffont.
Merci beaucoup à tous les deux, mais on ne vous laisse pas repartir sans avoir retrouvé une dernière fois notre morceau préféré, interprété par Karen Sherry, qu'on vous dédie.
Ça se perd.
Tu ne me vois pas,
Voilà, c'était la une de la science qu'on peut retrouver sur le podcast de La Tête au Carré, bien sûr, Axel Villard.
Karen Cheryl est dans le podcast de La Tête au Carré, de la une et du dossier aujourd'hui.
Et c'est gratuit en plus, heureusement, on ne pouvait pas faire plus.
Franceinter.fr.
Merci beaucoup Axel, à demain.